Chapitre 14e. Richard Norton, pendant que la marquise de Solis élargissait, héritait, avec une science cruelle de la vie, la blessure qu'elle venait de faire à Sylvia, Richard, le mari, amenait à la villa le solliciteur dont il avait annoncé la venue à Mrs. Norton. Ce n'était pas sans répugnance que M. Cadogan accompagnait son compatriote. L'homme de loi ne trouvait pas dans l'espèce des causes absolues de séparation. C'était un sexagénaire solide, ami du fait, avec des cheveux blancs très drus et des dents très solides, et toute sa face rasée décelait la force. On ne l'attendrissait pas facilement. « Je vous trouve bon, vous, » dit-il à Norton, « de casser votre existence en morceaux parce que Mrs. Norton souffre. Elle se résignerait avec de la patience et du temps. Là, j'en ai fait bien d'autres. »« Je veux, » répondit Norton, « que Mrs. Norton soit libre avant d'être vieille. » Le raisonnement paraissait à M. Cadogan un peu sentimental, mais Norton, n'étant pas un enfant, pouvait régler comme il l'entendait sa destinée, et si Mrs. Norton acceptait le divorce. « Vous êtes sûr qu'elle l'acceptera ?» disait le solliciteur. « J'en suis sûr. »« Tant pis, je n'aime pas les divorces. J'en fais, j'en vis, mais je les déteste. Je les trouve niais, que voulez-vous ? J'en ai tant vu de mariages réputés mauvais que le temps avait bonifié, comme les vins. » Incompatibilité d'humeur, oui, quand on a 20 ans, 30 ans, mais quand on vieillit. Ah, la compatibilité des mots rétablit l'équilibre. Les rhumatismes à soigner deviennent l'école mutuelle du désarmement et de la résignation. J'ai vu un mari vieilli soigner avec un dévouement de saint sa vieille femme paralytique et qu'il prétendait ou croyait détester quand elle était jeune. Supposez les divorcer, il n'aurait pas trouvé, elle, les mêmes soins. Lui, la même sensibilité. Les gardes-malades valent les amants. L'habitude et l'égoïsme sont aussi puissants que l'amour, et si celui-ci fait de la vie, ceux-là la complètent et la finissent. Mais M. Cadogan n'était pas là pour appliquer ses propres théories. Norton tenait au divorce. Le solliciteur travaillerait au divorce. Il avait déclaré à son client son sentiment intime. Il ne lui restait plus qu'à accomplir son devoir. Richard Norton le fit entrer dans le salon où se tenait Sylvia, entourée de Bernière et des trois femmes, et avec une solennité qui n'avait rien de théâtral, un ton grave et triste. « Je vous présente M. Cadogan, solliciteur. » Il alla droit à Sylvia et ajouta, parlant à voix basse, « Et je suis heureux que l'acte qui va terminer notre union ait quelques témoins. Ils pourront répéter un jour la déclaration que je tiens à faire. » Sylvia, très pâle, semblait le conjurer du regard, comme pour lui demander de traiter en tête à tête, dans le silence, cette redoutable question. Mais comme s'il ne comprenait pas la supplication muette de la jeune femme, Richard prit des mains de Cadogan, qui s'était assis et fouillait sa serviette de cuir noir, un papier, et le présenta à Sylvia en disant très haut. « Voici la première signature que vous ayez donnée pour être libre, Sylvia. »« Libre ? » songeait-elle. Se rappelant tout ce qu'il y avait dans ce mot de tentation et de rêve. C'était le souhait ardent de Georges, libre. C'était ce que le jeune homme faisait reluire à l'horizon, comme une aube d'existence nouvelle. C'était aussi l'aspiration ardente de sa vie comprimée, lassée, libre. « Votre nom ?» continuait Norton froidement, au bas de cet acte, « et M. Cadogan se chargera de suivre la procédure nécessaire aux États-Unis. » M. Cadogan ajouta, « Procédure toute simple, madame. Le seul fait de vivre à Paris, vous, tandis que M. Norton habitera à New York, entraîne le droit de divorce après 1 année. » Madame de Solis et Bernière se tenaient dans un coin, attendant, spectateurs d'un drame, tandis qu'Eva s'approchait comme suppliante, de Sylvia qui, debout, l'œil fixe, semblait hypnotisée par quelque chose d'invisible ou de lointain là-bas vers la mer. Puis, dans ce silence, devinant ce qui se passait, Madame Montgomery entrait et, contrairement à ses allures de tourbillon, se glissait à pas furtifs comme dans une chambre d'agonie. Et Norton, impassible, la voix un peu altérée pourtant, disait à Sylvia, changée en statue, « Un an, vous entendez? Vous avez 1 année à attendre pour être libre. Mais demain j'aurai disparu de votre existence. Je veux qu'on sache bien du reste, madame, et je le dis ici tout haut, comme devant un tribunal, je veux qu'on sache que si l'un de nous deux est coupable de n'avoir pas su assurer le bonheur de l'autre, ce n'est pas vous, que je respecte et que j'honorerai toujours, c'est moi. « Richard !» s'écria Eva en prenant la main de Norton comme pour l'empêcher de continuer. Il repoussa légèrement la jeune fille. « Laisse-moi » dit-il. Il regardait Sylvia, et il lui semblait que sur les lèvres de la jeune femme, le mot de tout à l'heure revenait « libre ». « Votre nom, là, madame, » dit le mari en désignant sur le papier la place qui attendait le nom de Sylvia. « Vous n'avez qu'à mettre votre signature là, et cette liberté de vivre selon vos vœux, que votre union avec moi vous enlevait, vous est rendue. »«
Ma signature ?»
Monsieur Cadogan ajouta. « Si vous voulez lire les considérants, madame. »«
À quoi bon ?»
fit-elle. « Ils sont tous en votre faveur, » dit encore Norton. Sylvia prit le papier, le regarda un moment et avec lenteur. « Alors, c'est la liberté, cela. »«
La liberté, oui, » dit Norton.
Madame de Sully s'était rapprochée de Mrs. Norton. Elle lui dit presque à l'oreille.
« Il est ruiné. Il est pauvre. »«
Une question, » interrogea Sylvia. « Votre fortune ?»«
Compromise, m'a-t-on dit. »
Richard haussa les épaules.
« Que vous importe, je la referai.
Honnêtement, loyalement. »
« Vous referez cette fortune, seule ?»
demanda-t-elle en le regardant en face.
« Seule. »«
Eh bien, » dit-elle en relevant la tête, « et votre compagne de tous les jours, qu'en faites-vous ?
Elle a partagé votre luxe, elle partagera votre misère. »
Il recula comme si on l'eût repoussé brusquement et Sylvia, les yeux ardents, répétant avec une sorte d'exaltation les paroles d'autrefois, les paroles de dévouement et de devoir, « Vous prenez cet homme dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, dans la santé comme dans la maladie, dans la pauvreté comme dans la richesse. » Et superbe, tête haute, toute son honnêteté passant dans son regard et dans sa voix. « Cet acte que vous me présentez, de quel nom le signerai-je ? De mon nom de jeune fille ou de mon nom de femme ? Vous ne savez donc point ?» Il se tournait vers la marquise. « Ce qu'on dit de vous ?
On dit que vous avez volé vos actionnaires. »
Norton, un voleur, infamie. Eh bien, ce nom de Norton que vous m'avez donné, je le garde, puisqu'on l'insulte. Elle avait de ses mains nerveuses déchiré le papier de Cadogan et elle en jetait les morceaux à ses pieds, sur le tapis, comme elle eût marché sur la calomnie elle-même. Eva pleurait. Norton, blême et prêt à faiblir sous la joie, lui que les épreuves laissaient intactes, tendit ses deux mains robustes à Sylvia, pendant que la marquise de Solis, la voix joyeuse, disait à la jeune femme «
Et allons donc. Il a fallu qu'il souffrit pour vous apprendre ce qu'il vaut. Et c'est moi.
Vous ? Dit Norton.
Oui, moi. En vous attaquant, en vous accusant devant elle. C'était risqué, mais je connais le cœur des femmes.
Il suffit d'une larme pour y faire fleurir la pitié, et avec la pitié...
L'amour ?
Demanda Norton tremblant à Sylvia qui le regarda longuement. Mais le Yankee était prêt maintenant à secouer ses accusateurs comme un taureau secoue les chiens qui le mordent au jarret.
« Que m'importe ? Ma vie entière répond pour moi, et avec vous, Sylvia,
avec toi,
j'en recommencerai une autre. »«
Si l'on nous accuse ici, il faut rester, » dit Sylvia. « Si c'est là-bas, il faut partir, quand vous voudrez. » Il n'avait pas pris garde à Madame Montgomery qui avait écouté, très émue, des larmes montant par aventure à ses yeux rieurs qu'elle essuyait vite, vite ne voulant pas les avoir rouges.
« Croyez-vous, ma tante, » dit tout bas Bernière à Madame de Solis, « je vous comparais, mentalement, à une vipère, moi,
imbécile. Vous êtes un Terre-Neuve. »«
Tout simplement, » dit la marquise.
Liliane s'était approchée à son tour de Madame de Solis.
« Très bien, oh, très bien, » dit-elle. « Vous êtes une femme excellente, excellente, marquise. »«
Un peu égoïste aussi, » fit Madame de Solis. « Je pense à moi, croyez-le bien. »
« Tiens, votre mari, »
dit-elle en montrant Montgomery qui entrait. Il n'entrait pas, à vrai dire. Il bondissait en avant, toujours essoufflé et cette fois comme chargé de renseignements. Il prenait les mains de Richard et les serrait à les briser.
« Ah, Norton, mon cher ami, mon cher associé, bonne nouvelle, grande nouvelle, les puits, les fameux puits, oui, enfin, l'huile.
Je vous demande pardon, Liliane, » dit-il en s'excusant.
« Mais c'est le mot, l'huile. » « Oh, Lionel, allez, allez, ça vaut autant que la peinture, »
dit Mrs. Montgomery.
« Eh bien, les puits, ils ont rejailli, les puits. Oui, oui, superbe. Une nappe énorme, une fortune, un lac d'huile, cher Richard. »«
Go ahead, »
cria d'instinct Norton comme un marin sentant la poudre et le branle-bas de combat. « Et la calomnie noyée là-dedans ?» dit Madame de Solis. « Il fallait voir le colonel, » ajouta Montgomery. « Oui, Dixon, car j'ai fait afficher la dépêche au casino. En partant pour Paris, il était furieux, le colonel vert, littéralement vert. Vert chrome, comme dirait... » Il s'arrêta. Eva demanda. « En partant ? Mais ce duel ?»« Oh, pour mémoire, le duel. Simple démonstration inoffensive. » Le colonel a déclaré n'avoir pas eu la moindre intention, et il a été modeste, tout à fait modeste. En Amérique, il peut avoir pris un fort, mais... À Trouville, il a pris le train. C'est égal, fit Bernière. Je regrette Miss Arabella. Liliane se mit à rire. Oh, vous êtes voyageur. Vous la rencontrerez dans une autre table d'hôte, dans un demi-monde meilleur. Et pendant qu'il causait, Norton, moins ému par l'arrivée et les nouvelles de Montgomery que par le sourire de Sylvia, disait à sa femme « Nous partirons le plus tôt possible pour New York, ma chère Sylvia. Oui, dès que le docteur Farjas vous signera votre exéate. Et quelque épreuve que nous y ayons rencontrée, nous garderons un bon souvenir de la France. Eva aussi, je crois. Moi ?» dit Eva vivement. « Si monsieur et madame Montgomery veulent bien me permettre de trouver un coin avenue Hoche dans leur hôtel, je demanderai à mon oncle la permission de rester encore un peu. J'aime beaucoup... »« Quoi donc ?» demanda la marquise de Solis. La petite américaine répondit « J'aime Paris. Oui, Babylone. Ah, dame, il ne fallait pas me convertir. » La marquise embrassa Eva sur le front, lui disant déjà « Ma chère enfant. » Alors, glissa doucement à l'oreille de madame de Solis, la jolie Liliane, un peu railleuse, il sera dit que le marquis épousera une américaine, le mildiou. Méchante, fit la mère. Liliane trouvait qu'on pouvait peut-être laisser seul monsieur et madame Norton qui devaient avoir à se parler après cette journée d'orage. Elle entraîna madame de Solis qu'elle reconduisit jusqu'à son logis, et en chemin, Montgomery s'étonnant que le malheur eût rapproché ces deux êtres quand il en désunit tant d'autres, Liliane faisait la moue, jetant ses mots. « Que vous êtes prosaïque, Lionel. » Et la marquise répondait. « C'est pourtant bien simple. Il est chez toute femme un héroïsme latent. Je suis certaine qu'il y a, sous plus d'un habit de Redfern, des cœurs qui valent celui de la Pauline de Corneille. Seulement, pour battre la charge de l'héroïsme, il leur faut l'occasion. On n'a pas tous les jours des tortures ou des bêtes féroces à braver, comme du temps de Polyeucte. Mais on retrouverait très vite des Paulines, si les lions de l'hippodrome étaient de vrais lions. Le sublime change de costume, comme le reste. Sylvia, au temps de la Révolution, si l'on eût arrêté son mari, eût crié « Vive la Gironde !» ou « Vive le roi !» pour le suivre sur l'échafaud selon qu'il eût été girondin ou royaliste. Il n'y a plus aujourd'hui à braver la guillotine pour partager le sort d'un mari. Mais il y a toujours le dévouement féminin instinctif pour braver cette autre guillotine de poche qu'on appelle la calomnie. Mrs. Norton a voulu rester fidèle à l'honneur du nom. C'est du cornélien bourgeois qui vaut bien l'autre, ou plutôt qui est identique à l'autre. Pauline meurt, Sylvia se condamne à vivre et tue son amour. Voilà. Le vieux français dirait à notre belle américaine « Bravo, ma fille !» Je vous demande pardon de mon bavardage. Oh, les conférencières. Bonsoir, je vous ennuie. Non, non, dit Liliane. On n'a pas besoin de monter en chaire. On peut faire de la psychologie tout en causant. Merci, madame. On se sépara. Madame de Solis songeait qu'il serait peut-être plus difficile d'avoir raison de son fils que de Sylvia. Les hommes sont plus fous que les femmes. Était-il au logis, le marquis? Elle aborderait sur le champ la question et trancherait dans le vif si elle pouvait voir Georges tout de suite. Il était dans sa chambre, regardant au loin, sur les vagues, le crépuscule tombé, le ciel encore rougi par le soleil couché. « Ah, mon enfant !» dit la mère en le tirant de sa songerie. « Veux-tu être franc avec moi ? Réponds. Tu voulais fuir avec madame Norton. Que lui disais-tu, avoue-le, dans cette lettre, la lettre brûlée ?» Il ne répondait pas. « Tu ne veux pas me confier ton secret ? Tu ne le peux pas. C'est juste. Toutes les bêtises de l'amour sont sacrées, comme les dettes de jeu. Il n'y a que l'honnêteté courante qui ne le soit pas. Eh bien ?» Tu proposais quelque folie à cette femme? Me permets-tu de deviner? Un autre ciel, une autre patrie, le duo de la favorite. Oh, que c'est démodé, mon ami, depuis Wagner. Sais-tu ce qu'elle aurait répondu à ta lettre si elle l'avait reçue ?
La marquise dit bien vite. D'abord, elle n'aurait rien répondu. Ou plutôt, c'est son mari qui se serait chargé de la réponse. Au fait, il l'a donnée, sans connaître ton autographe. Et cette réponse, je te l'apporte.
Son mari, fit Georges, étonné.
Oui, son mari. Oh, parbleu. Elle ne lui a pas raconté que tu voulais fuir, car je suis certaine que tu voulais fuir.
Tu avais, très visible pour moi,
les symptômes d'une certaine fièvre particulière, celle de l'enlèvement.
Elle ne lui a rien dit de cela, non.
Mais voilà. Sur ces entrefaites, Norton a été indignement attaqué, calomnié. On l'a dit ruiné. On a dit pis que cela. Et il paraît qu'au fond de l'âme exquise, de cœur, de Mrs. Norton, il y avait encore un peu de tendresse pour ce très brave et galant homme qui est ton ami. Le vent de tempête a soufflé là-dessus, rallumé ce qui était éteint et...
Et ?
Dit Georges, anxieux.
La marquise s'interrompit.
Je te fais de la peine. Mais si tu savais quelle joie une honnête femme éprouve à savoir que les femmes honnêtes ne sont pas rares, quoi qu'on dise.
J'en sais même qu'ils sont encore des honnêtes filles et que je trouve délicieuses.
Sans aller bien loin, Miss Eva...
Georges de Solis avait fait un mouvement de dépit qui ne contraria pas trop Madame de Solis.
Eva, le nom, se disait-elle, n'était donc pas indifférent au marquis.
Bref, conclut la marquise, Mrs. Norton partira un de ces matins pour New York.
Avec lui, dit Monsieur de Solis.
Qu'y a-t-il d'étonnant à cela?
Oui, elle partira.
Oh, à moins que Norton ne reste à Paris, ce qui est encore possible.
Ou que le docteur Farjas n'envoie les Norton aux Pyrénées, avant de les laisser reprendre le paquebot, ce qui est probable.
Mais si je vois le cher maître, je lui dirai que toutes ces pilules de valériane ne valent pas ma cure à moi.
Et comme Georges regardait sa mère d'un air étonné, la marquise ajouta doucement.
Parfaitement, ma cure. J'ai coupé dans le vif.
Vous étiez deux fous. Et j'ai ouvert le robinet à douche. Mrs. Norton n'a rien de mieux à faire que d'aimer le mari qu'il adore.
Et toi, de tâcher d'adorer quelqu'un que je connais et qui t'aime déjà,
elle ajouta en riant.
Tu sais, ce n'est pas Mademoiselle Offenburger que je veux dire.
Puis elle se tut, trouvant qu'elle en avait peut-être trop dit déjà pour un soir.
Georges de Solis resta, jusqu'à la nuit venue, à contempler la mer immense, les lueurs des phares, les points d'or des étoiles.
Il lui semblait qu'une nuit aussi, une immense nuit, enveloppait toute sa vie, voilait son avenir comme d'un crêpe. Puis, dans cette nuit même, une clarté d'aube se levait. Une aurore douce et rose, quelque chose de vague, entrait en lui comme la caresse d'un vent frais, d'une brise qui, au loin, eût passé sur des fleurs. Et comme le lendemain, Sylvia Norton recevait la visite du docteur Farjas, qui la trouvait transfigurée, toute heureuse. Le médecin ouvrit au hasard un volume qui traînait et qu'un signet marquait à une page déterminée.
« Rosetti, la maison de vie, tiens, » dit Farjas, « je ne connais pas. »«
Oh, un de mes volumes préférés, » répondit Sylvia.
Je l'avais prêté à M. de Solis, qui me l'a renvoyé ce matin.
Alors, lentement, le docteur lut, de cette maison de vie, le sonnet marqué, peut-être par hasard,
le sonnet 97, auquel le marquis avait mis le signet, mon nom est, qui aurait pu être.
Et je me nomme aussi, jamais plus, trop tard, adieu.
C'est très joli, dit le docteur, très joli.
Il posa le volume et ajouta,
la poésie n'est pas toujours la musique des fous.
Elle est aussi le conseiller des sages.
On peut très bien l'employer en médecine.
Au revoir, chère madame, et mes compliments sur votre santé.
Quand vous aurez passé 3 semaines à Luchon, comme je vous l'ai prescrit, vous pourrez faire la traversée sans nulle crainte. Je réponds de tout, maintenant.
Ce même jour, sur la plage, comme Liliane Montgomery, marchant avec Miss Eva, toutes deux délicieuses sous leurs ombrelles claires, rencontrait Georges de Solis qui allait venait, regardant le sable, assez triste, la jolie Liliane alla droit à lui.
« Monsieur de Solis ?»
Il salua, paraissant sortir d'un rêve.
« Monsieur de Solis, nous allons porter des secours à nos amis les Ruaux, du côté de Tourgeville-les-Sables. vous ne nous accompagnerez pas ?»«
Moi ?» dit-il hésitant.
« Oui, venez donc visiter nos pauvres avec Miss Meredith. »
Et comme il s'en défendait un peu.
« Si fait, si fait !» dit Mrs. Montgomery. « Vous venez, vous venez !»
Alors, la jolie Liliane, faisant passer devant elle, sur les planches, Miss Eva, toute rouge et rayonnante de joie, lui jeta à l'oreille, très bas, ces deux mots, pendant que George saluait la petite américaine.
« Allons, marquise !»
C'est ainsi que s'achève l'américaine de Jules Claresy.